parce qu'il est, si je ne m'abuse, 20. Donc nous avons beaucoup de temps. Bon. Ben, merci vraiment pour ces deux communications. Je ne résiste pas à dire quelque chose peut-être immédiatement et pour lancer la discussion. Autour de Cobert, pour un numéro qu'on avait intitulé « L'acteur créateur » et qui était paru dans la revue Double Jeu, Cobert m'avait exigé que je vienne le voir en Provence pour parler et pour faire un entretien avec lui. Et là, il m'avait dit quelque chose qui m'avait assez hallucinée. Il m'avait raconté comment, après l'épisode de Théâtre du Soleil et sa grande fâcherie, avec Ariane et son départ, il s'était senti extrêmement mal, voire dépressif, il ne savait pas quoi faire, et que là, il avait demandé à Jean-Pierre Taillade, un de ses premiers compères du Théâtre du Soleil, de le filmer en ne sachant absolument pas ce qu'il allait jouer, ni dire, ni faire. Et que c'est à partir de ces improvisations que Taillade a très mal filmé parce qu'il détestait la technique, et puis Taillade, c'était l'ami avec lequel Cobert se fâchait toujours. Donc il y avait un double refus de la part de Taillade de véritablement filmer cela. Mais Cobert me dit, comme ça, à l'occasion de l'entretien, j'ai 80 heures d'improvisation qui ont été la matrice de tout cela après. 80 heures que je n'ai jamais finalement montrées. On me dit, pardon, quoi, comment? Et donc on avait organisé une séance publique où il avait simplement commencé à présenter quelques éléments de cette matrice invraisemblable en disant que peut-être un jour il en ferait quelque chose, et notamment il racontait que pour savoir comment jouer, il retournait toujours à ses images pour voir comment il avait au départ fait naître les personnages dont il voulait parler, et que c'était avec ça qu'il construisait son jeu encore aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous relater cela parce que j'étais fascinée par cela, et puis par ce nombre d'heures d'images qui restent pour l'instant, parce que je me dis, mais où elles sont ces images? Elles sont chez lui. Je crois que pour l'instant, il n'en a encore rien fait. Et que c'est extraordinaire pour justement faire quelque chose de l'ordre d'une approche généalogique. Ce serait, je crois, en contrepoint avec ce que tu dis, parce qu'il a en plus commencé les premiers moments. C'était le tournage de Molière, c'était Ariane, et c'était la mort de sa mère. Donc c'était vraiment les premières choses qu'il a pu improviser devant Taillade. Taillade qui ne le croyait pas du tout intéressant, et c'est plutôt Clémence qui lui a dit à un moment, ça y est, je vois les personnages, donc c'est bon, continuons, quoi. Donc pardon, mais je trouvais que c'était en lien direct avec ce que tu as pu dire, et que ça pourrait encore être, parce qu'il y a tellement à faire avec cela, une extension possible, enfin, de cette étude, de ce travail, avec des images inédites et absolument extraordinaires. Il nous en avait présenté, je crois, une heure, un jour, en râlant, en nous disant que c'était pas terrible, mauvais, mais pour nous c'était extraordinaire, évidemment. Voilà, et puis la deuxième chose, et après je me tais, promis, par rapport plus à ce que tu disais, Marie, peut-être que c'est une fausse piste, mais je trouve que dans tout ce que vous dites, il y a quelque chose qui a à voir avec la question de la présence, toujours finalement. Quelle relation entre comique et présence de l'acteur, finalement? Est-ce que quand on cherche le comique, on ne cherche pas toujours la présence? Et je pensais à cela aussi parce que tu parlais de la formation de Crew, enfin par de Crew de DeVos. Et c'est assez extraordinaire parce que lorsque tu parlais du comique, tu disais que c'était que la musique, par exemple, était un contrepoint au jeu de l'acteur, et un contrepoint nécessaire. Et de Crew dit la présence, c'est l'immobilité mobile. C'est le fait de mettre ensemble toujours des choses différentes. Donc voilà, c'était pour engager éventuellement une réflexion à la fois sur le délire archivistique et cette espèce d'archive vivante qui est devenue Cobert, et puis sur la question du comique et de la présence, peut-être.
Moi, en tout cas, j'ai plein de questions à poser à Marie, et de toute façon, on n'a pas tellement le temps, donc on
va peut-être plutôt après. Si, on a du temps.
Mais il y a plein de choses qui m'ont vraiment passionnée. La question de... Il y a des polémiques autour de Colbert dans lesquelles je ne veux pas... Enfin, ce n'est pas du tout la peine d'entrer maintenant, mais cette question de la vulgarité, elle affecte énormément, elle a énormément affecté le regard qu'on a posé sur Colbert. Et tu disais, Marie, tu disais que De Vos, il a dit... J'aimerais être le futur Scaramouche des futurs Molières, n'est-ce pas ? Donc la question de la transmission de De Vos à quelqu'un, elle m'intéressait beaucoup. De la même façon que je me pose la question de l'unicité de Colbert, c'est-à-dire Colbert, dans quelques années, ça donne quoi ? Quand il n'y a plus Nouchkine, quand il n'y a plus, etc. Quel est le devenir de ça ? Et puis aussi cette question j'étais toujours fascinée, moi, par le visage de De Vos. Et tu as terminé, je trouve ça merveilleux, ta communication en disant qu'à la fin, le visage suffisait, tu sais, dans De Vos. Et en fait, cette question du grimage et du masque que De Vos se compose est tout à fait passionnante, quoi.
Eh oui. Merci. Oui, mais beaucoup d'éléments spectaculaires dont je n'ai pas parlé, en effet. Mais c'est vrai que le rapport au maquillage, il est essentiel parce que pour Coluche, il y a le nez rouge, mais il y a aussi les yeux. Et De Vos aussi souligne les yeux parce qu'ils ont vraiment besoin de se composer leur personnage. Et d'ailleurs, une anecdote qui est rapportée par un des amis de De Vos qui disait, même si c'était une interview au téléphone pour parler de son spectacle, et qu'il n'y avait pas besoin de le voir, ce n'était pas filmé, et ben, il enfilait son costume de scène et ensuite il répondait. Voilà. Et pour Coluche, il y a toujours la distinction entre Coluche en scène et Michel Colucci, on va dire, même s'il raconte les mêmes choses. Donc c'est en ça également qu'au niveau de ce qui est énoncé, il y a beaucoup de choses qui sont communes et que pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté en fait entre Coluche en scène et Coluche en plateau dans ce qu'il profère quand on arrive après la période de la radio, c'est la même chose. Et là, on voit quasiment plus le personnage en fait. Donc c'est vraiment le comédien aussi parce qu'il est partout. Coluche est une bête médiatique, il est dans toutes les grandes émissions, il est parade chez Gilbert Maritier, Gilbert Carpentier, ce que fait De Vos également, donc c'est des millions de disques vendus, donc c'est aussi une manière de rentrer chez les gens. Quand tu parlais de Colbert avec des spectateurs qui ont pu voir les autres et qui viennent comme voir une série, bah Coluche c'est un petit peu ça aussi parce que les sketchs on les connaît, on les a à la maison sur les disques, ils passent partout, il n'y a que deux chaînes à l'époque, hein, deux chaînes de télévision, enfin d'abord une et ensuite deux, donc c'est voilà, il y a toute cette popularité qui est là, c'est quelqu'un qui accompagne finalement quasiment au quotidien parce qu'on peut l'écouter un petit peu quand on veut. J'ai perdu le fil pour dire qu'il était là tout le temps et je ne sais plus quoi. Alors après sur la question de comique et présence, ben là encore hein, tradition du musical revendiquée et le sketch L'histoire d'un mec sur le pont de l'Alma, c'est un sketch qui a été rodé dans les musicals puisque Coluche quand il était au Vrai Chic parisien, il joue son spectacle, donc ça joue à 22h, Thérèse est triste, donc on imagine qu'il termine à minuit et demi, ensuite il va jouer dans les cabarets. Et il passe de salle en salle, c'est Martin Lamotte qui m'a raconté ça, donc pour roder vraiment l'histoire d'un mec, ce qui veut dire que quand il passe en solo, le numéro, il le maîtrise sur le bout des ongles, et donc il peut vraiment jouer et proposer, exposer ce personnage du mauvais raconteur de blagues au public. Donc cette présence, il est très professionnel, il sait la faire, et ensuite il a tout un tas d'astuces, on va dire, pour vérifier que le public est bien avec lui. Je vais prendre les notes de ceux qui font les cons, c'est quelque chose qu'ils font aussi régulièrement. Arrêter. Bon, et d'ailleurs, sur chaque entrée en scène, c'est travaillé. En 77, il commence. J'ai pas dit ça. Non. Ah bon, je l'ai dit. C'est moi qui ai dit que les Belges étaient des cons et qui sait qui a des problèmes maintenant, c'est pas vous. Et donc, il y a tout un jeu. Et ensuite, il part sur les sketchs qui sont sur les disques. Voilà, donc il rajoute toujours quelque chose en scène sur cette.
Je voulais simplement dire, donc je me propulse vers Roberto, que l'histoire de Molière humoriste, c'est un des rares grands apports de la Pléiade. Hein. C'est une des conclusions de l'édition de la Pléiade, Molière humoriste, c'est-à-dire s'adressant en son nom à son public, en lui parlant de choses qu'il connaît. C'est une posture qu'on a. Et la question du bouffon aussi, qui est posée sur Molière, cette figure de comique.
Je vous remercie. suis limité par mon français, alors j'espère vraiment de vous lire les deux dans les actes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intriguent, qui m'intéressent. J'ai pensé deux choses à propos du comique et de la politique. Je suis d'accord avec De Vos, c'est mieux que le comique fait les comiques et le politique fait, c'est déjà comique, le politique. En Italie, on a un exemple terrible de Beppe Grillo qui a gagné les élections et il a détruit complètement la politique italienne. À travers le populisme, il a transformé la popularité en populisme. Et ça a été une chose terrible qui a légitimé des comportements spectaculaires de la politique. C'est terrible. Pendant que les comiques sont toujours politiques, mais n'est pas la politique, c'est autre chose. Ça, c'est la première pensée que j'ai eue. Et à propos de Colbert, je me suis souvenu de j'ai vu Colbert que j'étais gars, j'étais vraiment. Je l'ai vu dans l'âge d'or, je l'ai vu à Milan, je l'ai vu dans. Je pense que c'était la danse du diable à Paris, presque rien compris parce que, bon, français c'était encore pire d'aujourd'hui, mais j'ai toujours aimé. Et. Je l'ai toujours comparé à Dario Fo pour le principe de la synthèse. Une des façons de faire rire, c'est de synthétiser la réalité. Parce que ça donne au public un sens de contrôle, une illusion de contrôler la réalité. Alors, ça te donne un sourire, pas un rire.
Exactement.
Non, pas un franche rire. Et tu souris parce que pendant un petit moment, tu penses de pouvoir contrôler. Mais quand tu vois la perspective télescopique de la synthèse, que tu peux faire la synthèse de la synthèse, et tu vois qu'au fond de ça, il y a le squeletton, tu as fini de rire.
Exactement. C'est exactement le même principe. Et Colbert se revendique beaucoup de Dario Fo.
Oui, il y a un autre acteur comique qui a le pouvoir, qui est accès au pouvoir, c'est Zelensky. Et d'ailleurs, c'est Markovitch qui parlait de ça, sa figure de. Il est devenu une figure d'indépendance parce que c'est aussi un acteur comique, enfin, vu par les Ukrainiens comme un acteur comique qui a prolongé son geste et il est devenu cette figure de.
Mais bon,
on va pas. Il faudrait être dans le détail des choses. Non, moi, j'avais une question sur la. Ouais, c'est évidemment passionnant ces histoires, mais d'autres, parce que c'est des acteurs comiques qui sont auteurs de leur geste scénique, mais de leur texte aussi. Voilà, la question d'auteur, elle m'intéresse beaucoup.
Oui.
Alors, tu disais, qu'est-ce qui restera d'eux? Je crois que c'était pas la question qu'on pose, enfin, que les adversaires de Molière disaient aussi. Molière étant mort, c'est bon. Comme toute une partie de son génie reposait sur le jeu, Molière va être oublié très rapidement, et tant mieux. Mais il y avait un répertoire que ses adversaires n'avaient pas forcément vu comme de cette importance. Alors je me demandais, est-ce que les textes de Colbert sont joués en dehors de Colbert, j'en sais rien. Et pareil pour De Vos et Coluche, est-ce qu'il y a des acteurs, des jeunes acteurs, qui reprennent ces textes comme textes de répertoire, qui sont entraînés, qui prolongent peut-être différemment aussi, et qui, sans être dans l'imitation, mais quel est le statut de ces acteurs-auteurs en tant que auteur de texte?
Moi, je peux répondre rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais je vous recommande le documentaire que Nicolas Colbert a fait sur son frère, Nicolas Colbert qui a passé 20 ans à filmer son frère, et qui a constitué ses archives audiovisuelles aussi, où on voit en fait toute la génétique absolument vertigineuse de ce travail qui est fait. Maintenant, il y a 200 heures de rush, et après, il y a la transcription in extenso de toutes ces improvisations, et ensuite il y a le travail à partir de ces transcriptions, après il y a le retour aux vidéos pour comprendre d'où venait l'idée qui a entre-temps été oubliée, etc. Donc c'est absolument vertigineux. Et dans ce documentaire, Clémence Massard mentionne que des compagnies ont en fait mis en scène les marches du palais qui étaient conçues au début. Vous l'entendez, il donnait la parole à plusieurs acteurs. L'idée initiale de Cobert était de faire un film avec une troupe d'acteurs. Ils n'ont jamais trouvé l'argent, etc. Et donc, il a fini par tout faire tout seul. Mais donc, des troupes ont rétabli les répliques, et ont redistribué les répliques entre plusieurs acteurs et ont apparemment joué l'épisode du roman d'un acteur. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres tentatives de cet ordre. Et évidemment, les textes sont publiés par ailleurs, hein, comme tu dis.
Alors, pour De Vos, il y a des reprises. Moi, j'ai même appris un texte de De Vos à l'école primaire. Donc, c'est aussi étudié maintenant en primaire et au collège, en cours de français. Et puis, il y a le spectacle de François Morel qui s'appelle J'ai des doutes. Et il a aussi une Molière pour. Molière qui est un hommage à De Vos, en fait, suite à l'ouvrage qu'il a rassemblé sur De Vos. Lui aussi considère que c'est un de ses maîtres comiques. Donc, je pense que vraiment De Vos pourrait être rejoué parce que les textes sont très, très écrits. Pour Coluche, c'est beaucoup plus difficile. C'est moins écrit d'une part, mais c'est surtout que c'est encore beaucoup diffusé à la radio et à la télé. Donc, je crois qu'on n'a pas non plus la distance qui ferait que quelqu'un se dirait bah, « Tiens, on va rejouer ce type de séquence ». J'ai vu une reprise du sketch qui s'appelle « Le viol », qui est d'ailleurs un sketch qui est moins connu, parce que c'est repris de Ginette Lacaze, qui est en fait un spectacle pour plusieurs personnages, et lui, il l'a repris en solo. Je dis qu'il est un peu moins répandu parce qu'il est sur les disques, parce que Lieberman a édité à peu près tout ce qu'il était possible d'éditer. Mais aujourd'hui, très clairement, il ne peut pas passer ce sketch. Et il y a justement un jeune humoriste qui était en jogging et qui l'a redit, et c'est d'une violence épouvantable. Donc voilà, je crois que ça sera assez limité à ça. Mais bon, quand Coluche sera moins diffusé plusieurs fois par jour sur Rire et Chanson, sur France 3, sur tout ça. C'est vrai, enfin, Coluche, il est encore trop là, trop dans les esprits en France.
Une dernière question, remarque éventuellement parce qu'il est temps. Non, Laura,
il faut qu'on soit à table, oui. Vraiment, merci beaucoup.